Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way.
C'est un grand classique de l'épopée des musiques noires qui vient d'ouvrir notre émission du jour. Il s'agit du titre Unforgettable, enregistré le 17 août 1951 à Los Angeles par le pianiste et chanteur afro-américain Nat King Cole. Il y a exactement 100 ans, le 17 mars 1919, ce brillant artiste voyait le jour à Montgomery, dans l'Alabama, l'un des états sudistes américains où la ségrégation raciale fut la plus féroce. Sa vie fut donc un combat constant contre toute forme de discrimination et pour une justice sociale à l'égard des Noirs d'Amérique. Cela passait par une attitude, une image, un discours qui, à cette époque lointaine, ne pouvait pas être trop agressif au risque de subir la violence physique et morale de l'administration blanche toute puissante. Ainsi, Nat King Cole choisit l'élégance, la dignité, la retenue, la finesse pour imposer une représentation respectable de l'homme noir. C'est en tant que pianiste que Nat King Cole se fait d'abord remarquer. Avec son trio, il propose un jazz accessible, sans aspérité, qui parvient à amadouer le public américain. Son jeu virtuose et mélodieux inspirera de nombreux autres instrumentistes, dont Oscar Peterson, Errol Garner, Ahmad Jamal et Kirk Lightsey. Kirk Lightsey a aujourd'hui 82 ans. Il n'était qu'un jeune musicien en devenir lorsque Nat King Cole brillait dans le feu des projecteurs au cœur des années 50 et 60. Il fut pourtant marqué par la prestance de son aîné, à qui il consacra un album entier en 1990 intitulé « From Kirk to Nat ». Bien qu'il fût fortement influencé par le talent pianistique de son héros, Kirk Lightsey fit aussi un clin d'œil au chanteur Nat King Cole en interprétant un classique du jazz, Close Enough for Love, dans l'esprit de son mentor.
We braved the odds and won the best.
perfect yet, but close enough for love.
This whole album had the focus of Nat King Cole.
Cet album était un clin d'œil à Nat King Cole. Rappelons également que mon deuxième prénom est Nat et que ma femme s'appelle Nat, Nathalie. Tout cela nous paraissait donc d'une logique implacable. Lorsque j'ai enregistré la chanson Close Enough for Love, je me disais que Nat King Cole aurait peut-être aimé la manière dont nous l'avons réarrangée. Nat King Cole et Art Tatum ont été mes principales influences. Je passais des heures à écouter leurs disques. J'ai même vu Art Tatum en concert dans un club de Détroit. Quant à Nat King Cole, je ne l'ai vu que de très loin lors d'une de ses prestations dans une grande salle de spectacle. Il était en compagnie de Duke Ellington. Il m'a beaucoup inspiré. Et je ne suis sûrement pas le seul. Tout le monde parle de la voix et du phrasé de Nat King Cole, mais n'oublions pas ses talents de pianiste. C'était un véritable artiste. Nat King Cole a d'une certaine manière suivi les pas de son aîné, Art Tatum.
He and Art Tatum had, in another way.
L'impact de Nat King Cole sur ses disciples est indéniable, tant au niveau du chant que du piano. Pourtant, ses héritiers ne sont pas tous nécessairement des maestros de l'art vocal ou pianistique. Le saxophoniste David Murray est lui aussi un fervent admirateur de ce personnage historique, mais il s'y est intéressé sous un autre angle, en se concentrant sur les œuvres en espagnol de Nat King Cole, car on le sait moins, mais Nat King Cole fut très attentif à la condition sociale des latino-américains qui subissaient, comme les afro-américains, toutes sortes de brimades et d'humiliations quotidiennes de la part des autorités en place. Ainsi, à la fin des années 50, Nat King Cole entreprit l'enregistrement d'un album à Cuba, entièrement interprété en espagnol. David Murray se passionna des années plus tard pour cet épisode marquant de l'épopée Nat King Cole, alors qu'il était lui-même de passage à Cuba.
We were in Havana recording another one of our string albums.
Nous étions à la Havane où nous enregistrions un album avec un quartet à cordes et nous avons remarqué une photo de Nat King Cole en 1958 alors qu'il préparait un album à Cuba. C'était le tout début de son intérêt pour les musiques latines. C'est aussi à cette époque qu'a eu lieu la révolution cubaine. Il n'a donc pas pu achever ses enregistrements à la Havane. Il a poursuivi son travail dans les studios de Capitol Records à Los Angeles. Je crois me souvenir que son manager était espagnol. Ce monsieur a dû lui conseiller de ne pas oublier la communauté hispanique. C'est la raison pour laquelle il s'est mis à chanter en espagnol. Après son album de 1958, il a enregistré un deuxième disque à destination des latino-américains. C'était en 1961. Sauf erreur de ma part, il a aussi enregistré quelques titres en italien et en portugais sur ce second album, qui a été réalisé entre Los Angeles et Mexico.
Je pense qu'il a fait beaucoup de ça en Mexico City, et entre Los Angeles Capitol Records et Mexico City.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Lorsque l'on écoute ces enregistrements d'époque, il est clair que la prise de son a pris un sacré coup de vieux. C'est la raison pour laquelle David Murray a voulu réactualiser ce répertoire.
The first thing I had to do was really just listen.
La première exigence que je me suis imposée, ce fut d'écouter sa musique pour ne pas me fourvoyer. Les albums de Nat King Cole ont été arrangés par différents producteurs hollywoodiens qui n'avaient pas beaucoup d'oreilles. Lorsque l'on écoute ces enregistrements d'époque, on a l'impression d'entendre la bande-son d'un film de série B. Les orchestres à cordes étaient trop sirupeux, les cuivres, notamment les trompettes, étaient trop fortes. Tout ce n'est faux. Je suis convaincu que s'il en avait eu la possibilité, Nat King Cole lui-même aurait réarrangé ses propres albums. Malheureusement, la La règle jadis était de faire appel à des producteurs extérieurs qui ne suivaient pas l'artiste très longtemps. La discographie de Nat King Cole n'est qu'une succession de productions mal fagotées. Il n'y a pas de continuité sonore au fil des albums. J'ai donc veillé à ce que les arrangements, notamment les cordes et les cuivres, soient dignes du répertoire de Nat King Cole. Je voulais imprimer une humeur cubaine que les producteurs américains de l'époque n'avaient pas été capables de reproduire. Il m'a fallu du temps pour parvenir à restituer aujourd'hui au XXIe siècle le son d'autrefois. Cette tonalité a plus de 60 ans. Ce fut donc un sacré défi pour moi de rendre contemporain une musique d'hier sans me compromettre et sans compromettre la vigueur rythmique du jazz afro-cubain des années 50. Je pense que j'y suis parvenu car cet album en hommage à Nat King Cole a connu un grand succès. Cela dit, avant même d'avoir enregistré une seule note de musique, je m'étais penché sur l'histoire et le répertoire de Nat King Cole avec beaucoup de sérieux et d'attention. Il fallait impérativement éviter certaines erreurs et rendre actuel cet héritage musical majeur.
Bring it into today.
Quelques notes de Kissas, 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 revitalisées en 2010 par le grand orchestre de David Murray, qui n'était qu'un gamin lorsque Nat King Cole était au sommet de la gloire.
I remember him and Duke Ellington.
Je me souviens l'avoir vu à la télévision ainsi que Duke Ellington. Ces deux grands personnages représentaient le visage positif que nous voulions voir de l'homme noir aux États-Unis. Personnellement, j'ai grandi dans une famille où l'on écoutait beaucoup de gospel. Le jazz n'était pas encore une passion pour moi. Mes parents écoutaient cependant Duke Ellington et Nat King Cole parce qu'ils imposaient une image digne de l'artiste, parce qu'ils savaient s'exprimer, parce qu'ils revendiquaient leurs racines africaines-américaines. Cette posture-là était positive et impressionnait mon père et ma mère et la communauté religieuse que nous fréquentions alors. Quand les citoyens américains blancs ont découvert Nat King Cole le soir à la télévision, ils se sont enthousiasmés pour le spectacle proposé par cet homme noir de grande classe et qui parvenait à les toucher à travers les chansons qu'il interprétait. Comme il n'y avait pas d'autres chanteurs capables de relever un tel défi, il fut adopté par l'ensemble des téléspectateurs américains à l'époque et cela a contribué à la déségrégation de la société américaine et à l'abolition de ce système d'apartheid que les États-Unis avaient façonné. Tous ces éléments ont encouragé le métissage, le dialogue entre les cultures et ont ouvert la voie au mouvement des droits civiques à l'aube des années 60. On peut le dire, Nat King Cole a posé les premières pierres du mouvement des droits civiques.
In America, all those things were stones to build upon the civil rights movement.
And now here's Nat with the Oscar Peterson Trio to do the jazz classic Sweet Lorraine. Along with Oscar's piano, you hear Ray Brown on bass, Herb Ellis on guitar, and Coleman Hawkins will join them on the second chorus.
I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, 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 she's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine.
Les apparitions de Nat King Cole à la télévision américaine au milieu des années 50 ont marqué les esprits. Et aujourd'hui encore, les historiens s'accordent à dire que la présentation d'une émission de variété par un homme noir à heure de grande écoute en pleine ségrégation raciale fut un événement qui a sûrement suscité l'examen de conscience des téléspectateurs américains de l'époque. Le chanteur Gregory Porter, qui a salué la mémoire de Nat King Cole l'année dernière, en est convaincu.
Nat's music was a quiet and subtle message.
La musique de Nat King Cole portait un message citoyen discret, subtil, qui dénonçait la situation sociale de l'époque. On a dit que cet homme était consensuel et apolitique, mais c'est faux. Son désir perpétuel de parler d'amour était un engagement politique. Il appelait à un amour universel. N'oubliez pas que Nat King Cole est né à Montgomery, en Alabama, dans le sud ségrégationniste. Puis, il a grandi à Chicago. Il savait parfaitement qui il était. Il savait qu'il était un homme noir. Il savait ce qui était bon ou mauvais pour l'Amérique. Il savait que ses chansons d'amour devaient toucher le plus grand nombre et changer l'état d'esprit des Américains à l'époque. C'est ce qu'il a fait. Il faut se souvenir que Nat King Cole fut le premier artiste noir à avoir animé une émission de télévision aux heures de grande écoute sur une chaîne nationale. Il savait ce qu'il représentait et quel public il pouvait toucher. Pour moi, il était le premier Barack Obama. Il avait conscience qu'il devait s'adresser à l'Amérique tout entière et il fut totalement accepté par les téléspectateurs. Il est juste regrettable que les annonceurs publicitaires n'aient pas soutenu son émission car, quelles que furent les critiques, il était le meilleur. C'était un génie.
Il était extraordinaire. However great it was, he was still a genius.
The Nat King Cole Show. From the Sands Hotel in Las Vegas. With special guest Tony Bennett. And the Beachcombers with Natalie.
Yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again.
Je vous le disais il y a un instant, le chanteur Gregory Porter s'est offert le luxe de consacrer un album entier à son idole Nat King Cole. Le 12 juillet dernier, il était sur la scène du Théâtre Antique de Vienne en France avec un orchestre symphonique dirigé par Vince Mendoza. Inutile de vous dire que le crooner était aux anges.
Literally a dream. I dreamed about it.
C'était véritablement un rêve. Quand j'étais gamin, je rêvais de cela et je continue de rêver aujourd'hui. Le fait que ce rêve soit devenu réalité et que le public semble s'en réjouir me procure énormément de joie. Je ne cherche pas à me mettre en avant. Je cherche d'abord à rendre hommage à Nat King Cole parce que sa voix a eu un impact majeur sur mon développement artistique, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Je l'ai découvert à travers les disques que possédait ma mère et aussi parce qu'elle prononçait souvent son nom à la maison. Et puis un jour, elle m'a dit que ma voix lui faisait penser à Nat King Cole. Je pense que ce n'était pas vrai, car je n'avais que 6 ans, mais elle voulait juste me faire plaisir. Il était impossible que ma voix juvénile ressemble à celle de Nat King Cole, mais son nom est resté dans mon esprit depuis lors. Au fil des années, je me suis dit, il faudrait que j'écoute la voix de cet artiste. Et quand j'ai découvert son répertoire, je me suis senti immédiatement lié à cet univers sonore. Je suis toujours aujourd'hui totalement fasciné par ce patrimoine musical. J'étais récemment en compagnie du pianiste jamaïcain Monty Alexander. Nous avons salué la mémoire de Nat King Cole en interprétant ses œuvres. Pendant une heure, nous avons conversé ensemble et j'ai découvert que Monty Alexander, alors âgé de 12 ans, avait eu le privilège de voir Nat King Cole sur scène lors d'un concert à Kingston en 1956. J'ai également évoqué Nat King Cole avec George Benson, qui lui aussi a eu le privilège de le voir autrefois. Tous deux ont ressenti exactement la même chose. La voix et la musique de Nat King Cole étaient merveilleuses. Ce grand artiste a eu un impact sur beaucoup d'entre nous.
On everybody, really.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Smile, emprunté à Charlie Chaplin par Nat King Cole en 1954, dont la voix ronde et chaleureuse continue de fasciner ses fans éplorés. Gregory Porter en fait évidemment partie et frissonne toujours à l'écoute de cette tessiture que seuls deux qualificatifs, selon lui, peuvent décrire.
Tone and emotion.
Sa tonalité et son émotion. Et comme je cherche moi-même à transmettre beaucoup d'émotions à travers ma voix, la tessiture de Nat King Cole m'inspire énormément. Le plus important pour moi, la clé de mes interprétations, c'est l'émotion. Je l'entends dans les œuvres de Nat King Cole, car il avait ce don pour caresser les mots. De plus, il était un instrumentiste exemplaire, extraordinaire, de grande valeur, mais sa manière d'insuffler des émotions avec une telle sincérité jaillit toujours avec force aujourd'hui. Il y a une chanson intitulée « The Ruby and the Pearl » qu'il s'était totalement approprié et il est quasi impossible de l'adapter ou de la remodeler. Il y en avait une autre intitulée « Calypso Blues ».
He's got a calypso. Why oh, why oh.
Pour moi, ce sont les prémices du rap. C'est fascinant d'écouter cela. C'est du Nat King Cole pur.
It's really amazing, but it's uniquely Nat King Cole.
She feels so sad. Sitting by the ocean, me how she feels so sad.
Calypso Blues, Nat King Cole en 1949, l'une des chansons fétiches de Gregory Porter. Il est évidemment impossible de citer tous les standards de Nat King Cole restés dans nos mémoires, mais il y a une mélodie qui revient souvent à l'esprit de ceux qui l'admirent. C'est une composition enregistrée en 1953, généralement diffusée au moment de Noël par les radios du monde entier, empreinte d'une douceur nostalgique qui nous étreint presque instinctivement. Le trompettiste et chanteur afro-américain Ronald Baker, qui lui aussi avait consacré un album à Nat King Cole il y a quelques années, a toujours cette ritournelle dans la tête. Il s'agit de Christmas Song, la chanson de Noël. Et s'il ne devait choisir qu'une seule œuvre dans le répertoire de Nat King Cole, ce serait celle-là.
The Christmas Song, c'est mon choix parce que pour moi, en tant que gamin, j'ai toujours entendu The Christmas Song et je savais toujours qui c'était. Ça veut dire que quand j'avais 8 ans, avant de savoir ce que c'était le jazz, avant de savoir ce que c'était la musique, avant de savoir que j'étais noir ou pas, j'ai connu The Christmas Song et je savais que c'était Nat King Cole qui chantait ça. Tout le monde connaît Nat King Cole. On sait qui c'est, cet homme-là. Parce qu'il chante avec une telle facilité. Est-ce que c'est fascinant quand même, hein? Quand on voit ce qu'il fait, toutes ces chansons qui sortent comme ça, et puis même quand il est derrière le piano, c'est incroyable, il sort ça avec une facilité. C'est le rêve, quoi. C'est le rêve d'avoir que ça a l'air aussi facile et aussi simple que ça. Donc, moi, quand j'écoute, par exemple, Nat King Cole, il peut dire tout ce qu'il veut, mais pour moi, la façon qu'il chante, c'est jazz. C'est jazz, c'est tout, c'est jazz. J'enseigne à mes élèves l'improvisation, peu importe la style de musique qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base de l'improvisation, on peut l'apprendre à travers le jazz, et ensuite, on fait ce qu'on veut. Et il faut garder la flamme, il faut des gardiens de la flamme, parce que, de toute façon, cette musique-là, et si les gardiens, on n'y reste pas, c'est là où la musique va mourir.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
La fameuse Christmas Song de l'indémodable Nat King Cole qui aurait eu 100 ans ce 17 mars 2019. À cette occasion, une compilation paraît ces jours-ci chez Capitol Records avec un duo virtuel entre Gregory Porter et Nat King Cole sur le classique The Girl from Ipanema. Subitement, on se prend à imaginer une rencontre entre ces deux hommes dont les voix se marient parfaitement. Et justement, si Gregory Porter avait eu la chance de côtoyer Nat King Cole, que lui aurait-il dit ?
Thank you for the power of your words.
Je lui aurais dit merci de nous avoir transmis tant d'énergie à travers vos mots. Je lui préciserai que lorsque j'interprète When Love Was King, je lui rends hommage car il est pour moi aussi important que Martin Luther King dans l'histoire africaine-américaine. Je le place dans la catégorie des grandes figures du XXe siècle. Ces gens-là m'ont transmis autant que ma propre mère. Je lui dirai donc tout simplement merci.
You know, so yeah, I just say thank you.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes each one, she passes goes, ah.
When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ah.
Oh, but I watch her so sadly.
How can I tell her I love her?
Yes, I would give my heart gladly. But each
but
day when
each
she walks to the sea,
she walks,
she looks straight ahead, not at me, not at me.
The Girl from Ipanema, une nouvelle version extraite de la compilation Ultimate Nat King Cole, avec ce duo virtuel et magique entre l'élève et son professeur, Gregory Porter et Nat King Cole à 55 ans de distance. Avant de se quitter, j'aimerais vous proposer une autre rencontre au sommet, mais celle-là n'est pas virtuelle. Cela se passait à l'Olympia à Paris le 19 avril 1960. Nat King Cole était accompagné par le grand orchestre de Quincy Jones.
Thou witty, thou sweet, thou grand, I would kiss me pretty, I would hold my hand, both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet Lollapaloozin' thee. I feel so rich in a hut for two rooms, a kitchen, I'm sure would do. Give me not a lot of, just a plot of land. And thou swell, thou witty, thou grand. Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand. I would kiss me pretty, I would hold my hand.
Extrait de la collection Live in Paris de Frémaux et Associés, c'était Nat King Cole accompagné par le grand orchestre de Quincy Jones le 19 avril 1960 à l'Olympia de Paris. C'est sur ces cuivres rutilants et cette voix scintillante que nous allons clore cette épopée hommage. Merci à Nathalie Laporte qui a le don de dénicher des archives épatantes et merci à vous de nous être fidèles chaque dimanche. La semaine prochaine, nous découvrirons la destinée de Ruben Niobe, militant indépendantiste camerounais dont l'histoire nous sera contée par le guitariste et chanteur Blik Bassi. Une dernière information avant de laisser place au journal, le festival jazz de Conakry débute le 20 mars. La troisième édition réunira Paco Seri, Shakti Diensek, Alioune Ouad, Manu Gallo, Joey Omicile, bref du beau monde, du 20 au 24 mars en Guinée-Conakry. Quant à Banlieue Bleue, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, ça commence le 22 mars avec les Las Poets, puis suivront Bassé Koukouyaté, Oumou Sangaré, Cheoul Kouti, Salif Keïta, entre autres. Toutes les infos sur banlieuebleue.org. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.